Bon, alors, vous avez également parlé de Ronsard, bien sûr que. Hein, mais alors, vous dites que.
Vous dites, alors, masse alors extraordinaire.
Vous dites que Ronsard.
Ronsard, il a passé son temps à écrire des poèmes comme ça.
Bien sûr, vous avez parlé.
On connaît à peine deux ou trois, mais.
De ce procédé moyennement élégant, d'ailleurs, qui consiste à dire à la belle. La fraîcheur d'une rose, donc.
Donc c'est maintenant.
C'est maintenant qu'il faut.
À mon avis, c'est pas un bon moyen de séduction, mais enfin bon.
C'est maintenant qu'il faut céder à mes avances, ou après ce sera trop tard. Mais alors, ce qui me paraît plus intéressant, c'est que vous considérez Ronsard comme une espèce de tournant.
Oui.
Hein? Dieu est donc en train de mourir, les fleurs ne sont plus éternisables, on perd les fleurs du bien, on les retrouvera dans le mal, Ronsard est à la charnière des temps modernes, il vibre, il est inquiet, etc.
Oui, je crois que ça peut se justifier si on regarde la façon dont le monde occidental, attention, parce que pendant ce temps-là, en Chine, il se passe tout à fait autre chose, dans le monde occidental et sa métaphysique subissent là une première cassure. Alors, évidemment, Baudelaire, avec l'exception très notable, très étrange, de Proust et de Rimbaud. Mais Rimbaud va se taire. Il vous découvre tout à coup un monde absolument magique, enchanté, où les fleurs, les pierres précieuses, se mélangent. Le minéral et le végétal sont en cours de mariage, dans le ciel, l'enfer, tout ça. Et puis, alors, ça va aller de plus en plus mal jusqu'à... Je crois que la fin est assez... Alors, nous allons passer par Ponge, qui s'acharne, en effet.
Ah oui, alors...
Voilà, mais nous allons... je finis pour montrer à quel point, là, vraiment, on va aller à l'opposé, balancier. On ne sait pas s'il y aura quelqu'un pour faire un atelier, en tout cas, peut-être moi. Ouais. Mais on arrive chez Beckett. Et alors, le texte de Beckett, qui s'appelle « Premier amour », qui est d'une extraordinaire drôlerie... Parce que le mot « jacinthe », voilà... Premier amour, je ne sais
sauf
pas
que,
si
vous, sauf si que je fais dit. Comme, on en parlait à midi, je fais comme tout le monde, je mets des annotations dans la marge, alors ne les lisez
non,
pas.
Non, ça c'est Beckett, et c'est très très drôle. Si vous avez ce texte, je vous le recommande, ça s'appelle Premier amour, c'est un texte extraordinaire, c'est très court.
Un texte très court, et à mon avis, publié aux éditions de Minuit.
Oui, assez tardivement, en 1970. C'est un texte, à mon avis, tout à fait fondamental. Là, voilà ce que je dis. Vous avez dans Beckett, de plus en plus, un rétrécissement absolument formidable dans sa négation de ce qui est en train de se passer. Et là, il s'agit d'un homme, n'est-ce pas, qui est squatté par une femme qu'il a ramassée sur un banc, qui est de plus en plus rejeté au fond d'un appartement, métaphore peut-être pour notre temps, on ne sait jamais, et qui est obligé de vivre quasiment en reclus pendant qu'elle occupe de plus en plus tout l'espace, et qu'un jour, elle reçoit évidemment, elle vit de prostitution, pendant que lui est tout à fait de plus en plus mis comme un déchet. Et un jour, d'ailleurs, elle se présente à lui comme étant enceinte. C'est pour ça que le mot « jacinthe » qui va apparaître est formidablement intéressant. Et parce qu'on entend aussi le « jacinthe » du sigi, en latin. Beckett est toujours extraordinairement vigilant sur l'emploi de ses mots. Et elle se présente à lui comme étant enceinte. Et elle lui dit, à sa grande surprise, parce que tout ça le laisse de plus en plus accablé. Et elle lui dit « Je sens déjà l'enfant bondir dans mon ventre », à quoi le narrateur lui répond « Ah, s'il bondit, il n'est pas de moi ». Alors, plus de femmes, plus de fleurs, ou bien seulement de vieilles femmes et de vieilles fleurs. Voilà vers quoi on va. Chez Beckett, mais peut-être partout ailleurs. Fin de partie. Fin d'un monde. Un homme, ou ce qu'il en reste, est squatté par une caricature féminine et vit cloîtré dans sa chambre. Elle sera bientôt enceinte, mais évidemment pas de lui, etc. Ici, la jacinthe, où il faut entendre le jacinthe latin du sigi, hic jacinthe, jacinthe, et le mot enceinte, bien sûr, dit tout. Et voilà le texte de Beckett que je vous lis parce qu'il est très beau, terriblement drôle, ou drôlement terrible. Un jour, je lui demandais de m'apporter une jacinthe vivante dans un pot. Là, art suprême de la ponctuation chez Beckett, parce que le mot « vivante » est entre deux virgules. Je relis. « Un jour, je lui demandais de m'apporter une jacinthe, virgule, vivante, virgule. » Excusez-moi de rire, mais ça va. Dans un pot, je trouve ça irrésistible. « Elle me l'apporta. et l'a mis sur le dessus de cheminée. Il n'y avait plus dans ma chambre que le dessus de cheminée où l'on put poser des objets, à moins de les poser par terre. Je la regardais tous les jours, ma Jacinthe. Elle était rose. J'aurais préféré une bleue. Au début, elle alla bien. Elle eut même quelques fleurs. Puis, elle capitula. Ce ne fut bientôt plus qu'une tige flasque parmi les feuilles pleureuses. Je n'ai pas besoin d'insister, hein, vous entendez bien ce qu'il écrit. Une tige flasque parmi les feuilles pleureuses. L'oignon, à moitié sorti de la terre, comme à la recherche d'oxygène, sentait mauvais. Anne voulait l'enlever, mais je lui dis de la laisser. Elle voulait m'en acheter une autre, mais je lui dis que j'en n'en voulais pas d'autre. Ce qui me dérangeait davantage, c'était d'autres bruits, petits rires et gémissements dont l'appartement s'emplissait sourdement à certaines heures, aussi bien de jour que de nuit. Enfin, je vous laisse découvrir, si vous ne l'avez pas lu, ce texte absolument superbe. Et là, nous sommes alors à la fin du cycle, n'est-ce pas ? Après, vous voyez depuis la rose céleste qui se fait butiner par les saints et les apôtres jusqu'à la triste capitulation d'une Jacinthe dans une chambre. Voilà l'histoire occidentale. Et juste après, je passe à la Chine.
Ouais. J'ai retrouvé ce que je voulais vous dire sur Proust. Mais c'est pas entendons-nous bien, n'est-ce pas ? Je ne dis pas que ce sont des choses qui manquent dans le livre. De toute façon, quand on fait ce genre de livre,
il manque beaucoup de choses,
on fait des choix. Et je trouve que c'est même une des beautés du livre. C'est-à-dire que un beau livre, c'est un livre qui continue à vous habiter après qu'on l'a lu, et c'est un livre qu'on continue soi-même à écrire d'une certaine façon, intérieurement. Et j'ai continué à l'écrire intérieurement après l'avoir lu.
C'est un compliment.
Voilà. Et donc, il y a un passage chez Proust, qui est un très beau passage, où il rêve sur le nom de Parme. Vous connaissez ?
Alors, c'est la violette, à ce moment-là.
Voilà. Alors, c'est la violette. Alors, il rêve sur le nom de Parme, la densité du mot, etc. Et sur la violette de Parme. Et le passage se termine. Il passe de Parme à Florence. Florence, la ville des lys d'or. Et dont la cathédrale s'appelle Sainte-Marie des Fleurs. Or vous parlez de Genêt, de Notre-Dame des Fleurs, etc.
Il ne faut pas oublier Genêt.
Voilà, on va parler de Genêt. Et je me suis dit, ça c'était pour cela. Il y a eu une violette dans votre adolescence, non ?
Oh oui, bien sûr. C'était l'amie anglaise de ma famille.
Qui fait que
son mari ayant été tué à Dunkerque, elle a pu quand même vivre assez clandestinement. Et ça a permis de faire passer beaucoup de messages en Angleterre. D'ailleurs, à l'âge de, qu'est-ce que j'ai, 10 ans, à Bordeaux, oui, on a été invité en remerciement au consulat britannique. Et j'étais assez mignon, je dois vous dire, dans un petit costume de flanelle grise. Millions. Et donc la reine Mary, très jolie odeur de la poudre, comme ça. Et alors elle m'a embrassé, je ressens encore ça. Ici, Londres, les Français parlent aux Français. Elle a dit ça que j'entends, comme je vais essayer de vous le restituer, et c'est très beau. Nous voici donc revenus dans notre bonne ville de Bordeaux. Deux siècles anglais.